Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Alexandre Chatuan dans les studios de Mon Paris FM. Je suis avec Sarah actuellement. Bonjour Sarah.
Bonjour Alexandre.
Alors aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Donc on va aborder une thématique un peu lourde, une thématique particulière et importante. On va parler de la condition des femmes en Afghanistan. On va via le prisme d'Amnesty International que vous allez introduire. Donc on aura le temps de parler de tout ça. On va essayer d'aborder un maximum de choses. Donc pour commencer très rapidement, Sarah, je te laisse te présenter. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais?
Moi, c'est Sarah. Je travaille dans la communication au quotidien, dans le secteur aéronautique. Et je suis invitée aujourd'hui à ce podcast en qualité de référente Afghanistan pour Amnesty International France, où j'exerce en tant que bénévole.
Ok, parfait. Bah, c'est donc t'es très bien placé pour parler de tout ce qu'on va aborder tout à l'heure. Pour remettre rapidement un peu de contexte, on fait cette émission parce que dans les locaux de Mon Paris FM, il y a le prix Carmignac du photojournalisme, 14e édition. Et donc celle-ci était axée sur l'Afghanistan et la condition des femmes depuis le retour des talibans au pouvoir en août 2021. Le prix a été attribué au projet duo composé de la photojournaliste canado-iranienne Kiana Ayeri et de la chercheuse française Mélissa Cornet, qui ont réalisé leur reportage sur une période de 6 mois avec le soutien de la fondation Carmignac. De janvier à juin, pour parler un peu de leur histoire, de janvier à juin 2024, Kiana et Mélissa ont parcouru 7 provinces de l'Afghanistan pour enquêter sur les conditions de vie imposées aux femmes et aux filles par les talibans, qui, selon les recherches d'Amnesty International que tu pourras nous conter tout à l'heure, pourraient constituer un possible crime contre l'humanité et de persécution fondée sur le genre. Au cadre de leur reportage, elles ont rencontré 100 Afghanes interdites d'école et enfermées chez elles, des femmes journalistes, activistes, luttant pour leurs droits, des mères horrifiées de voir l'histoire malheureusement se répéter pour leurs filles, et aussi des membres de la communauté LGBTQI+. Elles ont documenté la manière dont les talibans, dans le cadre d'une société profondément patriarcale, il faut le souligner, ont systématiquement éliminé les femmes de la vie publique. Malheureusement, elles ne peuvent plus aller à l'école, elles ne peuvent plus aller à l'université, travailler, s'habiller comme elles le souhaitent. Au mois d'août du 2024, le régime des talibans a encore forcé son contrôle, mais ça peut-être que tu vas nous en parler, en promulguant une nouvelle loi obligeant les femmes à se couvrir le visage d'un masque et leur faisant interdire d'entendre leur voix en public. Donc ça, c'est quand même des restrictions qui sont assez regrettables et ça montre quand même un pas en arrière sur tout ça. Est-ce que tu peux nous parler justement, toi, du régime des talibans en Afghanistan et de ce que tu en sais?
Oui, alors en effet, depuis qu'ils ont pris le pouvoir en août 2021, les talibans mènent une véritable guerre contre les filles et les femmes afghanes. Ils restreignent leurs droits de façon dramatique. Et cette campagne de persécution, qui est fondée sur le genre, est organisée, généralisée et systématique, au regard de l'analyse juridique d'Amnesty International, pourrait constituer un crime contre l'humanité. Ces violences, elles ont été documentées dans différents rapports d'Amnesty International, dont le dernier qui date de mai 2023, qui s'intitule « La guerre des talibans contre les femmes, un crime contre l'humanité de persécution sexiste en Afghanistan ». Ce rapport, il a été réalisé par Amnesty International et la Commission internationale des juristes et conclut que ce système répressif instauré par les talibans à l'égard des femmes et des jeunes filles afghanes pourrait relever du crime contre l'humanité de persécution fondée sur le genre. Les talibans, ils imposent des restrictions sévères qui portent atteinte à la liberté de réunion et d'expression des femmes afghanes, comme tu l'as dit. Les femmes afghanes, elles ne peuvent plus se déplacer librement, elles ne peuvent plus s'exprimer en public. Elles ne peuvent pas choisir leurs vêtements qu'elles portent en public, elles ne peuvent pas passer leur permis de conduire. Elles ne peuvent pas se rendre dans un salon de coiffure non plus. Elles ne peuvent pas aller dans un parc, dans des bains publics, dans une salle de sport. malheureusement, la liste est très longue. Et c'est aussi l'Afghanistan, le seul pays où, au monde où une femme ne peut pas, une fille ne peut pas aller à l'école. Elles sont exclues de l'école, elles n'ont plus le droit d'aller à l'école. C'est le seul pays au monde à ne pas autoriser les filles à aller à l'école.
Oui, quand même.
Ouais, c'est grave.
Ouais, c'est quand même un gros, gros pas en arrière. Hein.
C'est un gros, gros pas en arrière, surtout qu'elles avaient bien des avancées pendant une vingtaine d'années et que là, en fait, tout ce qu'elles avaient fait est détruit, en fait, depuis 3 ans.
Ouais, bah, c'est ce qu'elles ont dit un peu, Kiana et Mélissa, c'est que quand elles ont rencontré justement ces mères de famille, elles étaient dans le regret que leurs filles subissent ce qu'elles ont subi elles quand elles étaient plus jeunes ou ce que leurs mères ont pu subir quand elles étaient plus jeunes. Enfin, c'est vraiment un pas en arrière, c'est ça qui est terrible.
C'est ça, c'est plusieurs pas en arrière et c'est l'histoire qui se répète. Et ce sont des femmes qui allaient à l'école, ce sont des femmes qui travaillaient. Et c'est plus possible aujourd'hui.
Est-ce que tu as un exemple, justement, tu m'as dit tout à l'heure, de loi que les talibans font passer pour montrer un peu à nos auditeurs que le gouvernement vraiment interdit drastiquement et que c'est écrit dans les textes que les femmes fassent ce genre de choses?
Alors, des exemples de loi, il y en a beaucoup, il y en a énormément qui ont été promulguées ces 3 dernières années. Ça a été progressif. En fait, quand ils sont revenus, ils ont dit qu'ils avaient changé et que les filles auraient toujours leur liberté. Et puis, on a constaté que ça n'a pas été le cas. Donc, ça a touché. Ils ont commencé par l'éducation. Avant, les femmes, elles pouvaient se déplacer avec un mahram, qui est un homme qui se déplace avec elles. Puis en fait, plus les jours avancent et plus c'est drastique. En fait, il y a eu la fermeture des salons de coiffure, il y a eu la fermeture des accès au parc. Et là, et les dernières dont on a beaucoup parlé, c'est en fait, on peut plus les entendre. Elles ont plus le droit de chanter, elles ont plus le droit d'émettre un son. Donc en fait, ils visent à les invisibiliser complètement de l'espace public. Et les Afghanes, elles sont de plus en plus tristes et elles perdent l'espoir et elles n'ont pas envie d'être oubliées. Et toutes ces lois qui ont été promulguées, elles portent un gros coup à leur envie de développement, leur épanouissement et juste le fait qu'elles sont enfermées chez elles. En fait, elles ne peuvent plus. Et un exemple de loi, par exemple, dans le dernier, en fait... ils ont demandé à ce que dans les prochaines constructions, il n'y ait pas que la fenêtre qui est dans la cuisine, elle ne mène plus sur l'extérieur, une cour intérieure ou sur l'extérieur. C'est un niveau, on se disait, tout à l'heure, j'étais à la marche du 8 mars.
Ouais, on va en parler un peu tout à l'heure.
Voilà, et c'est un niveau qu'on ne pourrait même pas imaginer, en fait.
Ça fait froid dans le dos quand même, ça fait froid dans le dos, mais est-ce que justement il y a quand même de la révolte, un mouvement de foule qui se crée, un peu d'espoir pour ces femmes?
Alors, il y en a qui ne l'acceptent pas, enfin elles ne l'acceptent pas. Ce qui est compliqué, c'est que les talibans ont enfermé de nombreuses femmes ou hommes parce qu'ils ont protesté. Donc pour celles qui ont dit qu'elles n'étaient pas d'accord, elles se sont fait emprisonner, enfermer. Il y a des répercussions pour elles, pour leur famille. Mais bien sûr que voilà, il y a eu des... Enfin... Voilà, il y a aussi malheureusement pas assez de mobilisation internationale. C'est ce qu'elle regrette, c'est qu'il y a beaucoup d'actualité, il y a beaucoup de...
C'est vrai que c'est un sujet qui passe plutôt sous silence, hein. On n'en parle pas beaucoup. Enfin, on sait que la condition des femmes est compliquée dans certains pays, mais on ne se rend pas vraiment compte en fait, de ce qu'elles vivent, parce que c'est vrai que les médias en France ne le relaient pas tant que ça finalement.
En effet, c'est pas. Il y a des quelques articles, mais effectivement, c'est pas là où est la mobilisation générale. Et du coup, elles ont peur de ça, en fait. Et nous, Amnesty, on a fait des tribunes dans les médias. Et il y en avait une qui disait justement la dernière violence qu'on fait aux femmes, c'est de les oublier, en fait. Et il faut surtout pas les oublier. Il faut parler d'elles. Il faut refuser tout ça. Il faut s'engager.
Il y avait une question que je trouvais intéressante de poser, c'était par rapport à le regard qu'ont les hommes et les maris dans ces pays-là. Est-ce que, tu as dit tout à l'heure qu'il y avait des hommes qui étaient enfermés parce qu'ils soutenaient la cause de leur femme, justement, ou de leur mère, de leur fille, ou quoi qu'est-ce. Est-ce que, enfin, quel est leur regard sur ça? Parce qu'en 2021, il y a des hommes qui étaient mariés avant 2021 et qui sont mariés après 2021 et qui voient leur femme se faire avoir une grosse restriction des droits. Comment est-ce qu'ils réagissent? Comment les hommes réagissent dans ces pays-là?
Alors, je pense que c'est une situation qui est imposée à eux et que du coup, ils n'ont pas beaucoup le choix. Il y a beaucoup d'Afghans qui tentent de fuir l'Afghanistan. L'Afghanistan, enfin, c'est un des populations qui demande le plus de visas, en fait, qui cherchent à quitter le pays plus parmi toutes les nationalités au monde. Et donc je pense que il y en a qui doivent pas être d'accord, mais c'est imposé à eux parce qu'en fait les talibans ils interdisent beaucoup de choses aux femmes, ils interdisent aussi beaucoup de choses à toute la population. Écouter de la musique, c'est plus possible, c'est plus légal. Donc
Ouais, c'est vraiment
voilà. Et
un... Ouais.
donc je pense que c'est qu'ils n'ont pas le choix, et qui peuvent en effet compatir à la situation des femmes, mais enfin, il y a aussi de la peur parce que, en fait, pour certaines femmes, vu qu'elles ne sont pas jugées responsables par les talibans, ben, en fait, les violences intrafamiliales, elles ont augmenté, et la violence conjugale aussi, parce qu'en fait, on leur dit que un homme va payer pour une femme. Si une femme fait quelque chose qui n'est pas autorisé, c'est pas seulement elle qui est condamnée, c'est le responsable de sa famille, et ça peut être son mari, son frère, son père. Du coup, il y a de la violence en plus, et ils peuvent avoir aussi peur, en fait.
Ouais, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué, mais tu t'as dit justement que, mine de rien, bah, l'Afghanistan, c'est le pays qui demande le plus de visas pour aller en France ou à l'international
À
pour.
l'international,
À
vraiment.
l'international. Est-ce que ça marche finalement? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des Afghans et des Afghanes qui partent? Qui arrive à s'échapper de cette situation,
Alors, il y en
finalement.
a beaucoup, du coup, mais sache que la voie de l'exil, elle est vraiment compliquée parce qu'en fait, déjà, tout ça, ça a un coût. Le passeport, le fait de traverser la frontière. Ensuite, ben, les Afghans qui partent, ils vont en général au Pakistan ou en Iran, qui sont les deux pays frontaliers. Et là, il y a un sentiment anti-afghan qui monte. Il y a le Pakistan qui a ordonné, qui était le pays qui accueillait le plus d'Afghans, qui a ordonné à la population qui était là de repartir en Afghanistan. Donc, on les a forcés à revenir. En Iran, pareil. Donc, en fait, là, ils sont dans une précarité parce que on veut pas d'eux. Ils sont en attente de visa et parfois ça prend des mois, en tout cas, de demander un visa français juste d'avoir un rendez-vous, c'est compliqué. Donc, il y en a beaucoup qui ont été évacués depuis la prise de Kaboul. Il y en a qui sont arrivés par leurs propres moyens et qui ont eu des visas aussi. Mais ce chemin-là vers l'exil, il est extrêmement compliqué et pas garanti. Donc, en fait, il y en a oui et d'autres.
Mais il
Voilà.
fonctionne, parce que tu as pu dire, tu m'as dit tout à l'heure en off, que bah tu faisais des fois intervenir des Afghanes qui pouvaient parler de leur situation et de la situation dans leur pays.
Pas
Donc,
autant qu'on voudrait, Amnesty, puisqu'on a
ouais.
fait une campagne l'année dernière pour justement demander aux autorités françaises de prendre la responsabilité, d'accélérer les rendez-vous à l'ambassade, de faciliter la route et de la rendre plus sécurisée.
Ils le font? Ça...
Non, non,
Non.
pas. Non,
Ouais.
pas vraiment. Il y a quelques nations qui l'ont fait, mais c'est compliqué. Ils le font pas. Mais après, à mon avis, il y a encore des Afghans et des Afghanes qui ont, parce qu'en fait, elles sont reconnues comme personnes persécutées maintenant. Donc, elles ont le droit de demander un statut de réfugié.
Mais est-ce que Enfin, est-ce que toi, tu as pu en rencontrer?
Oui. Et pour répondre à ça, du coup, moi, je suis bénévole à Amnesty depuis un an et demi.
Un an
Et
et demi, ouais.
l'année dernière, on a fait une grande campagne dont le but était de montrer aux Français cette persécution des femmes afghanes. Donc, à travers les
Ok.
médias, à travers des rendez-vous avec différents ministères. Et j'en ai rencontré qui sont partis. Pendant la chute de Kaboul, je ne sais pas si tu te rappelles de ces
Oui,
images qui
oui,
ont pas mal choqué
oui.
les
Oui,
gens,
bien
mais
sûr,
en
bien sûr.
gros, voilà, là, il y en a qui ont été évacués par les forces américaines, par les forces françaises, donc il y a pas mal de gens qui sont partis. Donc j'en ai rencontré. Et là, il y a un peu de recul. Donc elles sont là, elles s'installent, elles sont heureuses de bénéficier de cette liberté. Après, ce n'est pas évident pour elles parce que du coup, elles partent à zéro. Les diplômes ne sont pas reconnus. Elles ne parlent pas. Elles apprennent la langue. Il y en a qui apprennent très vite. Et en général, bah, voilà, il y en a certaines qui décident d'être militantes. Et pour être militante, il faut vraiment beaucoup de courage parce qu'il y en a qui sont en France, qui sont militantes, mais qui s'exposent quand même à des risques parce que le reste de leur famille est là-bas. Il y en a qui ont reçu des menaces. Mais elles le font coûte que coûte pour que la situation avance. Et j'en connais certaines à Paris. Il y en a un peu dans différentes régions en France. Mmh. Et elles sont... voilà. Mais encore hier soir, je discutais avec une qui disait qu'elle était très heureuse d'avoir choisi la France plutôt que les États-Unis avec ce qui se passe.
Ah bah ça, oui, c'est
mais très triste pour celles qui sont restées du coup. Aussi.
Ouais, forcément. Ouais. Et là, actuellement, là, c'est au point mort. La situation là-bas, elle est au point mort. Il n'y a pas même si la France fait pas grand-chose, il n'y a pas un mouvement international qui s'éveille, parce que bon, il y a pas beaucoup de pays malheureusement qui peuvent faire bouger les choses. Hein. On pense à la France, aux États-Unis, à la Russie, à l'Union européenne en général, mais il n'y a pas de là actuellement, la situation, elle est vraiment au point mort. Et...
Bah là, ce que les femmes afghanes, elles redoutent le plus, c'est qu'on reconnaisse le gouvernement taliban comme un vrai gouvernement, en fait. Parce que du coup, ça va normaliser la situation. Oui. Bon, ça se passe comme ça et c'est comme ça. Donc, il y a eu des discussions à l'ONU. Il y a eu deux mandats d'arrêt qui ont été émis contre les chefs des talibans ces derniers mois. Donc, c'est des progressions, même si c'est un combat qui est difficile au quotidien. Il y a eu quand même des réussites. On a eu des réussites pour avancer, en fait, pour qu'un jour ils soient reconnus coupables de ces crimes. Pour qu'ils soient jugés pour ça, et pour qu'ils mettent fin à cette oppression systématique, en fait. Parce qu'un jour ou l'autre, ils ne seront plus là et il faut collecter des preuves pour pouvoir les juger ensuite. Donc,
qu'est-ce qui freine ça, justement, selon toi ? C'est des accords géopolitiques ? C'est de fermer les yeux ou...
Il y a des pays qui font du commerce avec eux. Il y a des pays que ça arrange. Et voilà. Qu'est-ce qui ferait
faut vraiment une grosse grosse prise de conscience et que les chefs d'État ils se rendent compte des vrais problèmes qu'il y a, quoi, parce que là c'est des vrais problèmes contre l'humanité, finalement des crimes contre l'humanité, et ça continue, en fait.
En cette journée, on en parle beaucoup parce qu'effectivement, il y a aussi juste à côté les iraniennes, et on fait souvent des événements pour les femmes afghanes et iraniennes parce qu'elles ont des en commun, mais...
La situation en Iran, elle est, de ce qu'on voit en tout cas, un peu plus d'espoir, on va dire, parce que les gens se révoltent plus, le peuple se révolte quand même beaucoup. Il y a des têtes d'affiche.
Depuis le mouvement Massa Amini.
Ouais, voilà, c'est ça. Des choses qui ne sont pas restées totalement impunies. On espère oui et non, parce qu'il y a eu des morts, malheureusement, mais en tout cas, on espère que la situation va bouger en Afghanistan, et donc... Ça m'amène à une petite passerelle. C'est pour ça que Amnesty International fait autant est une aussi grosse organisation pour faire bouger les choses. Qu'est-ce qu'Amnesty International, finalement ?
Ouais. Du coup, Amnesty International, c'est une très belle organisation non gouvernementale.
J'ai vu 10 millions de personnes dans le monde.
Le mouvement Amnesty ?
Oui.
Ok.
J'ai vu ça, c'est beaucoup. Franchement, c'est beaucoup.
C'est vraiment beaucoup. C'est une organisation qui est née en 1960. Qui a pour but au quotidien de lutter contre les injustices qui sont faites dans le monde.
Ouais, de faire respecter finalement les droits de l'homme dans
Exactement,
le monde.
Exactement, dans le monde.
Voilà, la Déclaration universelle des droits de l'homme, voilà, ça s'appelle. C'est une organisation qui est indépendante.
Entièrement indépendante. Et qui est financée par des dons.
Financée par des dons.
Oui.
Okay.
Aucun soutien d'État.
Ok. Et donc, toi, du coup, tu es référente bénévole.
Voilà.
C'est ça. Référente bénévole, c'est ça.
C'est ça.
Dans la partie, donc, Afghanistan.
En fait, il y a une équipe, donc Amnesty International, c'est un mouvement dont le siège est basé à Londres.
Okay.
Et puis après, il y a des structures nationales. Donc moi, je fais partie de la structure française.
Okay.
Et là, il y a des salariés qui travaillent au quotidien.
Okay.
Et il y a aussi des équipes de bénévoles qui vont venir en aide. Et parmi les référents pays, ce sont des bénévoles, donc voilà, avec une activité au quotidien, mais qui viennent renforcer le mouvement avec une expertise.
Ok, et ça se passe bien, l'ambiance, elle est bien.
Ouais, vraiment, je te conseille. C'est très, c'est ça ne ressemble à aucun des boulots que j'ai eu avant.
Okay.
C'est très, il y a enfin quand tu rentres là-bas, il y a des super pancartes hyper engagées. Moi, je trouve ça génial de se mobiliser pour une cause, pour une solidarité internationale. Le siège, il est dans le 19e au métro Belleville.
Ah, ok, et par contre, il y a différents, on va dire, organisations.
Ah oui,
en
fait, il y a un siège en France. Amnesty International, c'est un énorme mouvement. Et
ouais.
Du coup, il y a aussi des groupes locaux. Donc en fait, tu as, par exemple, dans les antennes jeunes aussi, dans les lycées ou dans les études supérieures, il peut y avoir voilà, un jeune qui est responsable de l'antenne jeune et qui va faire passer les messages d'Amnesty, diffuser les films qu'on diffuse. Voilà, et au sein de son établissement. Il y a aussi les groupes locaux qui vont être des groupes par arrondissement dans Paris ou une ville, plusieurs villes. Et il y en a partout
y a
la France,
branches,
en fait.
Okay.
Ouais, en fait, si tu veux, tu as le siège... qui est au-dessus des structures nationales.
Ouais.
Après, il y a les structures nationales. Et la force de frappe d'Amnesty, c'est ça, c'est que c'est des jeunes lycéens aux personnes retraitées qui vont diffuser ces informations et qui vont toucher en fait toute la France.
Ok, et comment on devient bénévole à Amnesty International?
On va sur le site d'Amnesty International France. On va sur le site France, voilà.
Okay.
Et on peut devenir bénévole de plusieurs façons, en fait, en fonction de son âge, de ce qu'on fait, de ses sujets d'intérêt, parce qu'en fait, les atteintes aux droits, mais ça concerne plusieurs types de droits. Dans les bénévoles, par exemple, il y a des commissions thématiques, il y en a qui sont sur le droit de l'enfant, il y en a qui sont sur le droit des personnes déracinées,
okay.
Il y en a qui sont que sur le droit des femmes, il y en a qui sont sur la justice climatique pour les actions... Logique, il y en a qui sont sur
Ok, non, franchement, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut être à plusieurs commissions en même temps, à plusieurs branches en même temps ou...
Alors, c'est une bonne question. Je pense que c'est possible, mais accroche-toi pour être déjà sur un pays,
okay.
Une commission, en fait.
Okay,
c'est
ça,
tellement, malheureusement, il y a tellement d'atteintes aux droits.
Oui.
C'est tellement que, du coup, par exemple, dans les commissions, ils sont plusieurs. Et puis, vu que c'est une activité bénévole, en général, tu as aussi autre chose. Mais en vrai, alors, ce qu'il y a dans le mouvement, il y en a qui sont là depuis des années et qui ont fait justement différents postes. Tu peux faire un référent pays, tu peux travailler dans un groupe local, tu peux...
C'est intéressant, comme ça tu touches un peu à tout et tu diversifies.
Tu développes une expertise de dingue.
Ok. Toi, pour l'instant, t'es pas allé encore en Afghanistan. Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est une possibilité ou je sais pas?
Alors, du coup, j'en ai beaucoup appris sur l'Afghanistan à travers ce rôle. Même au sein du secrétariat international, on n'a pas été en Afghanistan récemment. Donc, alors moi, j'adore voyager, j'adore la culture étrangère. Donc, plus j'en apprends et plus... Et en fait, c'est ça, en fait. C'est qu'il se passe ces choses terribles, mais c'est aussi... j'ai rencontré des filles merveilleuses. C'est aussi un pays avec énormément d'histoire, de culture.
Oui.
Et du coup, ouais.
Ça, malheureusement, on l'oublie à cause de...
Mais complètement, c'est aussi ça, en fait, la culture qu'ils peuvent plus exprimer parce qu'en fait, on a le droit de rien faire. Un jour, quand l'Afghanistan sera libre, j'ai...
Ok, non, c'est intéressant de savoir ça. Justement, comment toi, si on parle de toi maintenant, comment toi, ça t'est venu à l'idée d'adhérer à Amnesty International?
Alors, c'est vrai que je pense qu'au quotidien, je suis quelqu'un d'assez sensible et empathique. Et quand je vois autour de moi des situations qui m'attristent, et malheureusement, il y en a beaucoup, et ça peut commencer, là, on parle de l'Afghanistan, mais ça se passe autour de nous, dans la vie au quotidien,
bien
à Paris.
Sûr.
Bah, c'est vrai, j'ai un peu une indignation, une tristesse. Et je me dis, il y a forcément quelque chose à faire. Mmh. On ne peut pas juste... si justement, il y a quelque chose de triste, je dois trouver un moyen de me dire que je suis utile à une cause. Du coup, pendant mes études, j'ai été bénévole au sein des Restos du Cœur d'abord.
Okay.
Et puis après, je suis allée vivre à l'étranger et je suis revenue.
Quel pays ?
J'étais à Dubaï pendant 3 ans.
Ah, ok.
Ouais. Et puis avant, les Restos du Cœur, j'étais en Australie. Et du coup, je l'ai toujours fait en revenant de l'étranger.
Globetrotteuse, quoi.
Ouais. Okay. Du coup, quand on revient de l'étranger, on doit un peu se reconstruire une vie, des habitudes, tout ça, pendant longtemps. Et c'est vrai que quand j'ai vu ce poste-là, je me suis dit, waouh, en fait, je suis hyper impressionnée par le travail d'Amnesty International sur différents conflits, différentes causes, sur la cause palestinienne aussi. Enfin, je trouve ça incroyable de s'intéresser aux injustices des autres. Et en fait, on pense parfois qu'on ne peut rien faire, qu'est-ce que je peux faire contre les talibans ? Qu'est-ce que je peux faire contre quelque chose ? Je ne peux pas. Mmh. En fait, si, c'est incroyable ce mouvement, parce qu'il montre qu'avec des actions et de la mobilisation, il y a des gens qui ont été libérés de prison dans des pays loin, parce que justement, il y a une action, il y a des actions urgentes qu'on appelle, où d'un coup, on demande à tout le monde d'envoyer une lettre à une ambassade, de demander la libération d'une personne, et dans plein de cas, ça aboutit sur la libération, mais c'est bien justement parce que on s'est dit que c'était possible, en fait. Et du coup, voilà, moi, j'ai rejoint Amnesty pour ça, parce qu'au quotidien, j'ai l'impression de me sentir
indifférente.
D'avoir un petit peu d'impact sur, sur la solution un peu moins impuissante, voilà.
Impuissante,
un peu moins impuissante face au malheur du monde. Et franchement, une fois qu'on rentre dedans, c'est hyper, hyper intéressant. Partage de belles valeurs et puis c'est des belles rencontres aussi.
Ouais.
Et ok.
Et c'est quoi peut-être la prochaine étape si jamais tu dois partir de la cause des femmes, on va dire, enfin si tu dois t'orienter vers une autre cause, est-ce que tu as une idée ?
Pas encore.
Pas encore ? C'est pas encore dans les projets ?
Pas encore. Mais c'est vrai que je me dis que ça pourrait être... Peut-être un autre pays, finalement, ou alors la cause des protections des populations autochtones aussi, ça pourrait être intéressant.
Mais d'ailleurs, une question que je ne t'ai pas posée, c'est pourquoi justement la condition des femmes en Afghanistan ? Est-ce que c'est toi qui as choisi ou on t'a orienté vers là ?
Non, alors moi j'ai postulé. Parce qu'il y avait, une annonce. Et après, en fonction de ce que tu as comme connaissance de ton envie, ils acceptent ou pas. Mais ça, c'est pour, c'est pour ces postes-là. Mais j'ai postulé.
Ok. Et on peut, c'est à tout âge qu'on peut rejoindre Amnesty International. Il n'y a pas de...
Tout à fait. Peut-être on peut ouvrir une structure dans son lycée, si on est au lycée.
Okay.
On peut rejoindre dans une université ou des études supérieures. Moi, je suis professionnelle, salariée. Plus tard, à la retraite, ça peut être un engagement de quelques années. On peut arrêter, on peut changer. Et franchement, c'est une... J'ai participé à un événement à Marseille avec une réfugiée afghane il y a quelques mois et j'ai rencontré une autre bénévole à Marseille qui avait beaucoup évolué au sein de la structure, qui faisait pas mal de voyages, qui a rencontré des gens des structures d'Amnesty International à l'étranger et voilà.
En tout cas, ça doit être vraiment une expérience riche. Enfin, on apprend beaucoup de choses en fait quand on est membre d'Amnesty. International. Et franchement, là, le temps avance. Mais je voulais qu'on parle rapidement de la marche qui a eu lieu aujourd'hui.
Oui.
Sur la journée donc, du droit des femmes. Comment ça s'est passé ? Où c'était ? Est-ce que c'était bien ? Est-ce qu'il y avait une bonne ambiance ? Est-ce que...
Ouais, c'était vraiment bien.
Parce que tu y étais, faut le dire.
Voilà, j'en reviens juste. Du coup, effectivement, c'est une journée où il y a pas mal de mobilisations. On aimerait que ce soit comme ça toute l'année, mais on le sait aujourd'hui. Et donc il y a pas mal, d'entreprises qui prennent, qui prennent la parole sur le sujet. Il y a pas mal d'événements qui sont organisés. Donc moi je suis allée à la place de la République et puis grand soleil aujourd'hui, 16 degrés déjà, incroyable. Beaucoup de femmes en colère, beaucoup de pancartes. Beaucoup d'hommes aussi, solidaires à la cause. Et puis une ambiance militante pour le coup. Là, il ne s'agit plus d'amnistie, c'est vraiment tout le monde qui est à Paris, tout le monde qui est dans la rue, avec des chants féministes et pour différentes populations aussi. J'ai vu des messages pour les Iraniennes, j'en ai vu pour les Afghanes, pour d'autres personnes aussi qui sont persécutées, comme les travailleuses du sexe.
En tout cas, bonne ambiance et ça fait avancer les choses.
Tout à fait. On fait parler de nous, de nos demandes, parce que rien n'est acquis, qu'il faut toujours se battre pour les droits humains et il faut que les mentalités changent, il faut que la vie d'une femme soit plus sûre et puis qu'on nous entende, en fait. Donc, c'est l'occasion qu'on nous entende, que les choses changent et évoluent.
Mot de la fin. C'était intéressant. J'espère que vous qui nous écoutez, vous avez appris beaucoup de choses sur sur Amnesty International, l'organisation que c'est, comment adhérer, quels sont ses objectifs, Amnesty International, et aussi la condition des femmes en Afghanistan depuis le retour du régime des talibans. Donc c'est une condition qui est vraiment compliquée et faut toujours se rendre compte. Là, je vais être partial, mais faut toujours se rendre compte de la chance qu'on a d'évoluer dans certains pays, parce qu'il y a d'autres pays où malheureusement il y a la même population qui se fait persécuter. Donc voilà, c'était intéressant. Merci Sarah d'avoir été avec nous.
Merci. De rien.
Merci et puis à la prochaine, j'espère. Et voilà, merci de nous avoir écoutés sur Mon Paris FM et on se dit à la prochaine.
Mon Paris FM.